Bonjour à tous. Le texte du livre du prophète Ésaïe est donc un texte qui suit une remise en cause par l'Éternel des idoles vers lesquelles s'était tourné Israël. Vous savez que le prophète Ésaïe a exercé son ministère sous trois rois et puis la moitié d'un cinquième roi qui s'appelle Manassé. Mais si vous vous rendez au chapitre 1, verset 1 du livre du prophète Ésaïe, vous avez le nom des quatre rois. Les deux premiers rois ont été des rois relativement fidèles à l'Éternel, mais ils n'avaient pas nettoyé les hauts lieux et ils laissaient le peuple continuer une pratique d'adoration des idoles, donc un culte qui n'aurait jamais dû avoir lieu en Israël. Et puis les deux seconds rois, les deux suivants, donc avec Akab en particulier, ça a été vraiment une décadence beaucoup plus grande encore. Et puis Ézéchias qui a redressé un petit peu les choses, mais qui ensuite a eu quelques difficultés. Donc c'est dans une difficulté de sainteté dans sa relation avec Dieu, et donc quand le roi va de travers, bah, évidemment il entraîne le peuple. Et c'est donc dans cette situation tout à fait spéciale que Dieu va adresser ses paroles à son peuple qui quelque part est découragé. Vous savez que l'influence des responsables spirituels, ça a un pourcentage important dans l'encouragement ou le découragement des enfants de Dieu. Alors c'est vrai que nous devons tous regarder à Christ, mais il y a dans les responsabilités que Dieu accorde à ceux qu'il a choisis, il y a à cause de leur comportement, comme le dira l'apôtre Paul, où on est un exemple et à ce moment-là on entraîne les autres dans une vie de sainteté, dans l'enthousiasme et dans le service pour Dieu, où on n'est pas un très bon exemple et évidemment on entraîne les autres dans le mauvais exemple. Et Dieu, le peuple est donc découragé parce qu'il y a des gens qui soupirent au milieu du peuple, hein, après la restauration de la sainteté de Dieu. Après tout, ce sont des gens qui ont connu au temps de Salomon, au début de son règne, toute une splendeur. Vous savez qu'à cause du comportement de Salomon, il y a eu un jugement qui a été prononcé par Dieu, et qu'à la mort de Salomon, eh bien effectivement, le royaume d'Israël serait divisé en deux, royaume du nord qui s'appelle Israël et royaume du sud, Juda. Et donc c'est une situation dramatique pour le peuple, et face à un peuple découragé qui se sent abandonné de son Dieu, parce que vous savez, les gens se posent des questions. Il y a des jugements de Dieu qui vont intervenir sous Akab et sous Ézéchias, hein. Dieu va utiliser les Assyriens pour accomplir sa parole et en quelque sorte punir, corriger le peuple d'Israël. Beaucoup des villes d'Israël vont tomber entre les mains de l'adversaire. Il n'y a que Jérusalem qui ne sera pas prise par les Assyriens, mais qui sera prise plus tard par les Babyloniens, donc par Nebuchadnezzar. Et donc c'est vraiment une période tragique, et des juifs, des croyants se posent la question, mais est-ce que Dieu ne nous aurait-il pas abandonnés? Et c'est dans cette période dramatique que Dieu va réaffirmer ce qu'on appelle dans les Saintes Écritures l'élection, le choix de Dieu. Et c'est pour cela que dans le texte qui nous a été lu, l'Éternel s'exprime ainsi: « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur », je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et puis un petit peu plus loin, au verset 13, il est dit: « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. » Dans le premier chapitre du livre d'Ésaïe, le prophète de la part de l'Éternel s'écrit et s'exprime ainsi par rapport au peuple. Il dit « Si l'Éternel ne nous avait conservé un reste, nous serions comme Sodome, nous serions semblables à Gomorre. » C'est-à-dire que là, le Dieu fait prendre conscience au peuple que s'il y a encore des fidèles dans une période de déclin spirituel, c'est parce que l'élection de Dieu, le choix de Dieu, la volonté de Dieu, personne ne peut s'y opposer. Je dis cela cet après-midi parce que il pourrait se produire que dans nos vies nous soyons découragés. Notre frère qui nous a lu le texte et apporté son témoignage a abordé, a effleuré quelque peu le sujet, le thème. Nous pourrions être découragés, nous pourrions être sous la pression, nous pourrions éventuellement, dans certains cas, commettre quelques désobéissances, s'éloignant de l'Éternel, négligeant les choses qui entretiennent la relation avec le Seigneur. Il n'empêche que Dieu nous rappelle une chose, il nous dit « Je t'ai choisi ». Ne pensez pas que si cet après-midi vous êtes présent dans ce temple, assis sur ces bancs et moi debout devant vous, que tant vous que moi, nous soyons là pour une autre raison que celle de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous puissions le servir. Et dans les périodes de difficulté, c'est l'élection de Dieu qui va nous fortifier et qui va nous amener évidemment à l'obéissance. En Deutéronome chapitre 7, versets 6 et 8, le texte inspiré nous dit de la part de Moïse, l'Éternel s'adresse à Israël et il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Vous voyez, déjà au temps de Moïse était rappelée cette vérité du choix de Dieu, de l'élection de Dieu. Alors c'est encourageant et en même temps c'est un thème qui est extrêmement dynamique parce que comme nous le verrons la semaine prochaine, puisque je dois revenir la semaine prochaine, alors je vais traiter au moins des deux facettes de ce grand thème. Hein. La semaine prochaine nous verrons, selon le texte de la deuxième épître de Pierre, comment nous sommes exhortés à affermir notre vocation et notre élection. Donc là, cet après-midi, nous voyons un premier aspect, une première facette, la décision de Dieu de nous avoir choisis. Et donc il leur dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, etc. » Mais quand on réfléchit aux promesses que Dieu a données à Abraham, vous savez qu'Abraham, c'est le père de la foi, c'est le père de tous les croyants, c'est le père de tous les chrétiens nés de nouveau. Nous sommes sauvés par le Seigneur, selon les promesses adressées par ce même Dieu à Abraham il y a bien des siècles. De toi sortira une multitude de nations et tu seras à l'origine de la bénédiction d'une multitude de personnes. Et nous étions, vous et moi, inclus dans cette promesse. Et dans le fond, quand on réfléchit au pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens, pourquoi est-ce que nous sommes nés de nouveau ? Pourquoi est-ce que nous croyons en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que le Seigneur est venu nous rencontrer, a changé notre vie, a pardonné nos péchés, nous a bouleversés par sa présence, le Saint-Esprit qui nous habite? C'est parce qu'il y a les promesses faites à Abraham. Moi, je ne suis pas issu d'une famille chrétienne, évangélique. Mais je peux me rattacher au père de tous les croyants sur toute la surface de la terre, Abraham. Et parce que Dieu a prononcé une promesse à Abraham, alors il nous a inclus, nous ici présents dans ce temple, et puis tous ses enfants sur toute la surface de la terre, ce qu'on appelle l'Église invisible, eh bien il nous a intégrés en Jésus-Christ sur la base de ses promesses faites à Abraham. Oui, Dieu tient son serment. Et nous qui sommes des païens, d'entre les païens, je ne sais pas s'il y a des juifs parmi nous, d'origine juive, mais nous sommes des païens, eh bien nous avons été donc inclus dans cette promesse. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a aimés dès avant la fondation du monde. Alors je ne sais pas si vous avez des sujets de découragement, mais si c'est le cas, rappelons-nous que Dieu nous a voulu avec lui pour le servir, pas pour faire n'importe quoi, ni vivre n'importe comment, mais vraiment pour le servir. C'est pour cela que quand on se sent faible et peu puissant, pensons à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Après tout, le Seigneur, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, s'adresse aux chrétiens de Corinthe qui sont dans une mégapole extrêmement dynamique de l'époque, tant sur le plan économique, sur le plan philosophique, sur le plan religieux, sur le plan de l'idolâtrie, sur le plan de toutes sortes de péchés. La ville de Corinthe, c'était quelque chose d'impressionnant, à tel point que Paul va dire dans la première aux Corinthiens, « Je suis venu vers vous dans le tremblement, crainte et tremblement, le grand apôtre. » Et il a dit, « Je n'ai pas voulu savoir autre chose que la prédication de la croix et que cette démonstration n'était pas basée sur des paroles d'hommes, mais sur une démonstration de force et de puissance afin que votre foi fût fondée en Dieu. » Mais l'apôtre, quand il s'est adressé aux Corinthiens, il ne s'est pas adressé dans toute la plénitude de sa force. Parce que, vous savez, s'adresser aux Corinthiens, qui étaient comme, me semble-t-il, un peu la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où pratiquement tout le monde se désintéresse de Dieu et se moque de Dieu et s'oppose à Dieu, lui aussi a connu la faiblesse, la crainte et le tremblement. Mais le Seigneur a bâti son Église. Et alors il dit aux chrétiens de Corinthe, vous imaginez un petit groupe là, je ne sais pas combien ils étaient là, mais il leur dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, donc c'est encore l'élection là, il n'y a ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, je vais me permettre de relire ce texte parce que je ne voudrais pas le tronquer, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, dit-il, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. On était dans la ville de l'expression de la philosophie grecque. Hein. Ce n'était pas n'importe quoi la philosophie grecque, enfin pour les hommes de l'époque. Il dit, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. On peut se sentir faible. Mais c'est justement là la source de la puissance. Parce que, oui, nous sommes faibles. Je me souviens d'une... En quantité, hein. Au niveau de l'église locale, je me souviens d'une jeune chrétienne il y a bien des années. L'église où je suis, par la grâce de Dieu, c'était dans un sous-sol, dans des caves. Hein. On a acheté des caves et puis on a aménagé tout ça. Donc on est en sous-sol et puis on est entouré dans le 12e arrondissement. C'est un des arrondissements les plus habités, comment dit-on, où le taux de personnes est très élevé. Il y a plus de 160 000 personnes dans le 12e arrondissement de Paris. Et elle m'a dit, mais à l'époque, on était peut-être une dizaine, voyez-vous. Et alors, elle m'a dit, mais on est quoi, nous? On est quoi au milieu de tout ça? Et puis moi, je pensais aux promesses que Dieu a données à Abraham, si on peut compter les étoiles du ciel, si on peut compter les grains de sable sur le bord de la mer, ta postérité sera plus grande. Et alors j'avais dit à cette jeune chrétienne, j'avais dit, mais je n'étais pas très vieux chrétien non plus moi-même, mais à l'époque, moi, je lui avais dit, mais c'est nous les plus nombreux, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les plus nombreux sur la surface de la terre. Oui, localement, on est un petit groupe dans un sous-sol, là, caché, et pour, vous savez, pour accrocher les passants, puis les faire descendre là, il fallait vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui agisse, hein, parce que Là, il n'y a pas de fenêtre, je me demande ce qui se passe là. Mais que de conversions dans cette église et que de belles œuvres du Seigneur pendant toutes ces années, puis encore aujourd'hui. Oui, nous sommes les plus nombreux et c'est Dieu qui nous a choisis. Alors, comme vous le savez, dans l'Écriture sainte, Dieu va choisir soit des groupes, des communautés ou des nations. Il a choisi Israël, comme on l'a lu en Deutéronome chapitre 7, verset 7. Il a choisi des non-chrétiens, des non-croyants, comme les Assyriens, pour rendre ses jugements, comme je vous le disais, sur Israël et sur Juda à une époque. Dieu aussi choisit des anges, hein, puisqu'il est dit en 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Paul dit à Timothée, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses. » Donc, l'ensemble des enseignements qu'il a laissés à Timothée. Et puis, Dieu choisit aussi des individus destinés à une tâche particulière, comme Abraham, que j'ai cité, comme Moïse, qui a été suscité par Dieu pour faire sortir les tribus d'Israël de l'esclavage égyptien. Mais Moïse, comme vous le savez, c'est au travers de Moïse, c'est la création d'une nation. Parce que Moïse est un prophète, c'est un chef, premier chef d'État d'Israël, c'est un législateur à qui Dieu a donné toute une législation pour qui structure justement une communauté pour en faire un peuple. Et à un moment donné, même Moïse s'est situé devant Dieu pour plaider en faveur du peuple d'Israël, puisqu'il est dit dans le psaume 106, verset 23, « Dieu parla, l'Éternel parla de les exterminer, c'est-à-dire d'exterminer Israël, qui se révoltait, qui regimbait. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Vous voyez comment c'est extraordinaire comment Dieu a suscité cet homme, non seulement pour sortir Israël du pays d'Égypte, pour s'opposer à Pharaon. Quand on regarde tout le cheminement de Moïse, tout ce que Dieu a fait pour en arriver là, et à un moment donné, Dieu décide de châtier le peuple. Et voilà qu'en décidant de châtier le peuple, il communique en même temps à Moïse les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu, son amour éternel, qui est à l'origine de l'élection d'Israël. Et du coup, il met dans le cœur de Moïse les pensées qui sont dans son propre cœur. Et c'est pour ça que Moïse dit, mais non, éternel, il va même jusqu'à dire, raye-moi de ton livre de vie, mais ne les frappe pas. Vous voyez comment l'élection nous amène à rentrer véritablement dans le plan de Dieu, quand on décide, comme on le verra la semaine prochaine, de véritablement affermir cette vocation et cette élection. Et ce que je trouve extraordinaire dans la vie chrétienne, c'est que non seulement Dieu nous donne ses enseignements, sa parole de vérité, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous reprend, qui nous sanctifie, mais en même temps il nous communique ses sentiments, son cœur. C'est pour ça qu'on vibre pour les perdus, c'est pour ça qu'on vibre pour les frères et pour les sœurs, c'est pour ça qu'on s'aime. C'est pour ça qu'on vit quelque chose d'autre que ce qu'on pouvait vivre avant d'être chrétien. Et puis il va jusqu'à susciter un empereur, l'empereur de Perse, Cyrus, pour permettre à Esdras et Néhémie de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et regardez comment il appelle ce Cyrus en Ésaïe chapitre 45. Je regarde si vous ouvrez votre Bible, parce que vous la connaissez par cœur, alors c'est bien. Mais en Ésaïe chapitre 45... Nous lisons « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, c'est-à-dire pour véritablement libérer des peuples qui étaient sous une mauvaise autorité, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. » On a l'impression qu'il s'adresse à un de ses enfants d'Israël, mais non, il s'adresse à Cyrus. Hein. Et il lui dit, « J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. » Ça, c'est vraiment une élection à un moment donné que Dieu fait sur un individu, sur Cyrus. Hein. Et il lui dit, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connusses, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu, je t'ai saint afin que tu me connusses, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu. Israël était au plus bas, Jérusalem était détruite, le peuple d'Israël avait été emmené en diaspora, en Babylonie, et voilà que Dieu suscite un empereur perse pour faire connaître son nom. Puisqu'Israël, pour cette période-là, était plus capable de faire connaître le nom de l'Éternel, ils étaient vaincus et dispersés. Alors Dieu appelle un non-chrétien, un non-croyant, pardon, et puis il va l'utiliser pour restaurer sa gloire au travers de la restauration des murs de la ville de Jérusalem et puis tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans son élection, ne change pas de dessein. Sa volonté est toujours la même. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, puisque nous bénéficions aussi de cette élection, alors ne nous décourageons pas. Si nous avons à demander pardon au Seigneur et à rectifier nos voies, faisons-le sur la base, justement, de cet appel que Dieu nous a adressé dans nos vies. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est présenté comme étant le Fils élu dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, verset 35. Il est dit « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le » au moment donc du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Dans le Nouveau Testament, la communauté des chrétiens, elle est identifiée comme peuple choisi par Dieu en contraste avec le reste de l'humanité. L'Église, c'est véritablement quelque chose de spécial dans notre monde. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire en 1 Pierre chapitre 2 verset 9, en s'adressant aux chrétiens de son époque et au travers de cette lettre de Pierre jusqu'à nous et jusqu'à ceux qui vont nous succéder, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous aussi, nous représentons et nous sommes, par la grâce de Dieu, le peuple de Dieu, en Jésus-Christ. Et cela va être répété plusieurs fois dans différentes épîtres. Les croyants sont les élus de Dieu. En Colossiens chapitre 3, verset 12, nous lisons ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Et si Dieu nous a élus, ce n'est pas simplement pour notre propre plaisir et qu'on soit satisfait personnellement, mais il nous a élus et prédestinés à connaître la sagesse révélée de Dieu. Si vous vous rendez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, et je vais terminer par cela, en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7, enfin même on va prendre verset 6, Paul dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. »
Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme non régénéré, c'est-à-dire non né de nouveau, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire les chrétiens que nous sommes, au contraire juge de tout, et le chrétien n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. Par notre élection, nous sommes rentrés dans cette intimité avec Dieu, et Dieu nous a prédestinés à pénétrer dans toute sa sagesse. C'est-à-dire que la connaissance que nous avons du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui ne représente pas grand-chose par rapport à ce que Dieu veut nous faire connaître de sa personne. Vous savez, ce qui est remarquable dans le christianisme, c'est que le christianisme, ce n'est pas simplement une connaissance des Saintes Écritures, c'est aussi la connaissance de l'auteur des Saintes Écritures, de notre Créateur, de notre Sauveur. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance de la personne même de Dieu, puisque après tout, la vie éternelle, c'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, notre élection nous a introduit dans la relation avec Dieu par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et par la foi en son sacrifice et la foi dans la grâce de Dieu. Et puis, à commencer depuis notre conversion, alors le chemin vers une connaissance toujours plus approfondie de la personne de notre Créateur et Sauveur. Et c'est pour cela que être chrétien, c'est non seulement connaître les Saintes Écritures, ce que Dieu a révélé dans sa parole, mais c'est aussi le connaître lui personnellement par l'Esprit Saint qui nous habite et qui sont tout jusque dans les profondeurs de Dieu. C'est peut-être, ça vous est sûrement arrivé, des gens à qui vous parlez du Seigneur et qui vous disent « mais tu parles de Dieu comme si tu le connaissais ». Évidemment qu'on parle de Dieu comme si on le connaissait, parce qu'on le connaît. Et c'est tout le merveilleux et la chose tout à fait spécifique au christianisme biblique, c'est que non seulement on connaît la vérité nous est exposée, compréhensible par le Saint-Esprit qui nous habite, c'est-à-dire la Bible, et puis en même temps il y a une relation intime avec notre Sauveur, notre Créateur et notre Sauveur. Alors soyons encouragés, vous et moi, par cette vérité biblique qui s'appelle l'élection, le choix de Dieu, et puis basons notre vie chrétienne, notre sécurité sur cet appel de Dieu. Puis la semaine prochaine, bien, nous verrons comment Dieu nous rend actifs dans cette sécurité, puisque nous sommes invités à affermir notre vocation et notre élection. Alors que Dieu vous bénisse pendant toute cette semaine, et puis Dieu voulant, à dimanche prochain.